Radio-Canada, audio.
Pour moi, la neurodivergence, c'est une force à plein d'égards. Il y a tellement de volets super positifs, mais en même temps, c'est souffrant. Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent? Puis qu'est-ce qu'il faut faire avec toute cette info-là, tu sais?
Ben, je pense que ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est que ça prend vraiment de tous ces gens-là pour faire un monde, que chacun a ses forces, puis qu'il faut être capable de les mettre à profit, d'accepter que ça vient aussi avec des défis. Il faut qu'on soit capable d'arrêter de vouloir formater, en fait, tout le monde, puis de s'adapter aux gens le plus possible, je pense. Je pense que c'est nécessaire qu'on parle de neurodiversité de plus en plus. Je pense que c'est le cas. Je pense qu'on en parle de plus en plus, mais je pense qu'encore une fois, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail de sensibilisation à faire. Fait que, ouais, ce balado va faire œuvre utile. Ça va aider beaucoup de gens, je pense, à se reconnaître, peut-être à reconnaître leurs enfants, réconcilier des familles.
Nous voici au dernier épisode. Puis je pense qu'on est désormais prête à faire le point. À la lumière des témoignages et des avis d'expertes que j'ai reçus, je pense qu'on devrait, en tant que société, essayer de tout mettre en place pour permettre aux enfants neurodivergents d'être repérés dès l'âge scolaire, ou au moins avant la fin de l'adolescence. Particulièrement les filles qu'on a oubliées pendant trop longtemps. Mais même si les professionnels ont maintenant des outils mieux adaptés qu'avant pour identifier les filles, le profil féminin reste encore complexe à reconnaître, à cause du camouflage et de l'intériorisation des traits, entre autres. Il y aura peut-être toujours des femmes qu'on va échapper parce qu'elles vont compenser pendant plus ou moins longtemps avant d'atteindre le point de rupture. On a aussi vu que certaines personnes sentent moins le besoin d'aller chercher un diagnostic, soit quand la souffrance est moindre ou encore que leur entourage n'est pas nécessairement prêt à soutenir leur démarche. Donc, je pense qu'au-delà des diagnostics, il faut revenir à la base. Être à l'écoute des jeunes filles et des femmes, de leurs souffrances, embrasser leurs différences aussi, moins essayer de la contenir ou de l'atténuer. Parce que ce que je souhaiterais profondément, c'est que ces petites filles et ces femmes souffrent moins. J'aimerais qu'elles puissent comprendre qui elles sont vraiment, qu'elles se sentent fortes, fières, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles arrêtent de se culpabiliser et ultimement, de s'effondrer. J'espère aussi que les personnes neurotypiques, qui ont peut-être reconnu certaines femmes de leur entourage dans les traits qu'on a abordés, ont trouvé ici des outils pour réagir, pour soutenir, pour comprendre. On conclut aujourd'hui cette quête en nous questionnant sur les avantages et les inconvénients d'assumer ouvertement notre neurodivergence. On propose aussi quelques pistes de réflexion, mais aussi de solutions, pour que la société et l'entourage puissent éventuellement mieux accueillir et soutenir les femmes neurodivergentes. Apparaître, la neurodivergence invisible. Épisode 5, au-delà de l'étiquette.
Sortir un peu de l'ombre et se désigner comme une personne autiste, ça fait peur, je pense.
Ouais.
En plus, en tant que personnalité connue, qui réussit super bien.
Il y en a plein des personnalités publiques. Dernièrement, Coco Béliveau, Louis T, Paul Oud aussi, qui a été diagnostiqué juste avant son décès, quand même un âge avancé. Puis ça m'aide. Moi, si ces personnalités-là n'étaient pas passées avant moi, j'aurais jamais osé dire ce mot-là parce que je me sens indigne parfois d'utiliser le mot autiste parce que j'ai l'impression que ça paraît tellement pas que ce que je vais recevoir, c'est automatiquement, ben voyons donc.
C'est le syndrome de l'imposteur.
Exact.
Ouais. Mais en tout cas, toi, c'est fou parce que t'as été inspirée par ces personnes-là, mais tu es l'une d'entre elles. T'es au même titre que les personnes que t'as nommées, je pense. Toi, tu les vois comme des modèles, t'sais, mais tu t'inscris aux côtés de ces personnes-là pour beaucoup de gens, je pense.
Je pense aussi qu'il y a des gens à qui ça fait très peur, le mot. Puis c'est pour ça aussi que j'en parle, c'est que il faut qu'on ait plusieurs modèles pour vraiment comprendre en tant que société que c'est un spectre puis que ça n'a pas toujours l'air de ce qu'on pense que ça a l'air. Mais j'ai envie
de lui montrer,
d'apparaître totalement puis d'être moi-même, en fait, tout simplement.
Cet échange avec Blanche m'a fait réaliser l'importance des modèles. Si moi, je m'inspire d'autres personnes qui me ressemblent pour avancer et pour m'accepter, est-ce que je suis capable d'assumer le fait que je puisse, à travers cette démarche, parler de la même façon à d'autres personnes? Je me sens tellement souvent imparfaite que je doute. J'ai peur d'être maladroite à travers ma quête. Mais il y a quand même quelque chose en moi qui me donne envie de persister et signer. Je pense que c'est crucial de mieux comprendre c'est quoi la neurodivergence au féminin. Celle qui est invisible, celle que moi je vis, que la réalisatrice de ce balado vit et que toutes les femmes qui m'ont accordé leur temps et leur confiance vivent. Qu'on soit une personnalité publique ou pas, on subit encore des préjugés. C'est pas rare de se faire invalider après un diagnostic, parce qu'on réussit bien dans la vie. C'est pas rare de se faire dire « Ah, dans le fond, tout le monde est un peu neurodivergent, faut arrêter de chercher des bébites. » C'est pas rare non plus de se faire dire que c'est juste une mode. Docteur Isabelle Hainaut l'a entendu quelques fois, celle-là.
Les gens ont d'autres choses à faire que de passer à travers tout ce processus qui est long, qui est
coûteux
et qui demande beaucoup d'énergie de préparation. Donc, c'est pas la mode. Les gens viennent, là, on parle des femmes, viennent parce qu'elles veulent comprendre, c'est cette quête d'identité. Elles veulent éviter des souffrances, éviter peut-être des situations, parce qu'il y a ça aussi, de se remettre les pieds dans les plats plusieurs fois de la même manière. En comprenant pas, souvent, ils vont dire, mais je peux pas croire, ça fait trois fois, je me mets dans telle situation, il y a quelque chose que j'ai pas décodé. Donc, c'est ça aussi, puis d'être outillé. Mm. Et donc, c'est pas la mode, on n'est pas toutes ou tous un peu autistes. Moi, on me dit ça, moi, non, je ne pense pas.
On s'entend que le diagnostic du TSA, c'est une multitude de tests, c'est beaucoup d'entrevues, il y a beaucoup de choses. Là. Ils te posent des questions toujours très détaillées. C'est pénible, c'est souffrant, là. C'est long, puis c'est creux en dedans de toi. T'sais, ceux qui disent « Ah, c'est facile, t'es allé voir le médecin, il t'a dit que t'étais autiste. » Non, non. Encore à ce jour, mon médecin dit que je ne suis pas autiste parce que je maintiens le regard visuel et que je suis très fonctionnelle dans le monde.
Moi, j'ai beaucoup vécu des profs qui ne comprennent pas ça. Un ordinateur avec mes outils de correction, ça a vraiment changé ma vie. Là, j'avais un prof qui m'avait dit « Mais c'est injuste pour les autres élèves. » Puis je me souviens du haut de mes 13 ans de faire « Mais non, c'est compensatoire à un déficit. »
Est-ce que ça t'arrive souvent que les gens questionnent ton diagnostic ou tes diagnostics?
L'autisme, oui. J'ai une autre de mes très bonnes amies. Elle aussi, elle travaille en adaptation scolaire. Puis, tu sais, elle a des cocos, des niveaux 3 avec beaucoup de défis, puis tout ça. À comprendre d'où je viens sur le bouillon des affaires, puis on en discute, puis ça. Mais c'est une des personnes que mon diagnostic, elle l'a questionné. Pas parce qu'elle croyait pas, mais parce qu'on voit tellement l'extrême dans notre travail de ce diagnostic-là que le niveau 1 peu extrême est que, OK, et, tu sais...
C'est vrai que quand on côtoie des enfants autistes de niveau 2 ou 3, le niveau 1 peut vraiment passer sous le radar ou même être perçu comme banal. Mais pour Andréane, qui est autiste de niveau 1, mais aussi intervenante en adaptation scolaire, c'est loin d'être banal.
Souvent, les enfants que je vois, mais oh, elle est particulière dans ses relations personnelles. Ah, oh, mais elle fonctionne bien, elle n'a pas besoin de diagnostic. Moi, ça vient me chercher parce que je me dis tout le temps, oui, là, ça va bien. Mais parce qu'ils ont 6 ans, 7 ans...
C'est pas grave.
C'est pas grave, mais je suis comme, c'est pas grave. Sauf que si elle n'a pas les outils tôt, ces particularités-là, ils vont la suivre toute sa vie. J'aime pas le principe que les étiquettes sont pas importantes parce que les étiquettes, ça donne une identité. C'est comprendre pourquoi on est un zèbre dans un troupeau de cheval plutôt que de croire qu'on est un cheval puis de pas comprendre la différence. Puis ça aurait changé ma vie si, très tôt, on avait ciblé les besoins, on avait répondu aux besoins. Puis mes parents ont essayé, mon milieu scolaire...
Mais c'est pas un manque de volonté.
C'est un manque de compréhension. Puis quand t'es enfant, t'as pas nécessairement les mots pour comprendre pourquoi ça est important pour toi.
Si tu t'inscris là, dans le spectre ou dans la neurodiversité, je suis neurodivergente, ça englobe beaucoup de choses là, parce que ça s'entrecroise tellement. La plupart des gens neurodivergents vont avoir plus qu'un diagnostic. Il y a des traits de l'autisme qu'on retrouve dans le TDAH et vice-versa. Donc, pour moi, à partir du moment où la neurodivergence est reconnue et on laisse une place à la neurodivergence dans la société, est-ce qu'un diagnostic, c'est vraiment nécessaire? Peut-être plus. T'sais, en ce moment, on est là, mettons, avec le podcast. On essaie de sensibiliser les gens à la cause, de faire comprendre aux gens c'est quoi la neurodivergence. Mais plus que ça va être compris, moins que c'est nécessaire, en réalité, de tout trouver les petits détails puis de se mettre dans des cases, là.
Ça me rappelle une conversation que j'ai déjà eue avec ma psy et qui m'avait fait pas mal réfléchir. Après mon diagnostic, je lui parlais vraiment tout le temps d'autisme et de TDAH. Elle m'a dit que tous les mots que j'utilisais pour me décrire puis les outils que je développais pour me gérer y étaient valides puis utiles. Mais que je devrais peut-être faire attention à pas trop m'accrocher aux mots autisme et TDAH. Parce que, comme tout dans la vie est changeant, muable, les étiquettes pour décrire mon type de profil pourraient changer un jour. Puis il faudrait pas que tout le reste s'écroule avec. Les outils qui fonctionnent, la façon dont j'interviens efficacement dans mes problématiques, ça reste pertinent, peu importe le diagnostic. Puis si un jour ces mots-là nous vont plus, si on trouve d'autres réponses, c'est pas la fin du monde.
Le fait qu'on est de plus en plus ouvert, je pense, à la neurodivergence, bien, on s'y attarde plus. Et puis, à un moment donné, le nombre de diagnostics a explosé, puis on dit, bien, voyons, comment ça, que c'est ça? OK, il y a peut-être plus de filles qu'avant, finalement.
Comme vient de l'expliquer la neuropsychologue Éliane Chevrier, une des conséquences de l'intérêt grandissant pour la psychologie et la neuropsychologie, c'est que les demandes pour des évaluations ont augmenté dans les dernières années, particulièrement pour les femmes adultes. Dr. Hainaut a, elle aussi, observé le même phénomène.
Depuis 5-6 ans, là, chaque semaine, là, j'ai des consultations, j'ai plus de femmes que d'hommes. Donc, quand j'en parle avec mes collègues de d'autres cliniques qui s'intéressent au profil féminin, on croit, au plan clinique, c'est beaucoup plus dans du un pour un. Donc, de plus en plus de femmes viennent, ça fait gonfler la prévalence générale. Et là, la sous-question que vous vous posez probablement... Est-ce qu'on en voit plus parce qu'il était camouflé? Est-ce que les personnes étaient là, mais on n'avait pas les bons outils? Tu sais, c'est assez simple de répondre, c'est qu'on n'avait pas les bonnes grilles d'évaluation.
En contrepartie, la nouvelle vague de diagnostics a aussi amené des questionnements chez certains spécialistes qui se sont demandé si on n'avait pas rendu les grilles d'évaluation trop inclusives et si ça posait des risques de surdiagnostic.
Le fait que plus de gens qui consultent, que les femmes, entre autres, qui consultent, souvent, c'est pour répondre à une question de diagnostic différentiel. Donc, je comprends une personne qui a vu 1, 2, 3, 4, 10 spécialistes, de dire, je peux-tu y voir clair là-dedans?
Parce que la souffrance elle est réelle. C'est ça.
Très réelle et envahissante et lourde. Mm. Puis c'est à cause de quoi? Oui, mais c'est vrai que des fois, c'est à cause d'un peu mille affaires. Mm. Pas mille, mais beaucoup.
Plusieurs.
Et des fois, ben ça se peut qu'on confonde différentes manifestations. Plus les gens compensent, ont compensé, ça peut donc amener des faux diagnostics ou du surdiagnostic. Ça varie aussi en fonction des critères diagnostiques qui ont vraiment évolué et qui sont plus larges maintenant. Est-ce que notre seuil est rendu tellement bas qu'on pose le diagnostic pour des gens que c'est pas tout à fait ça ou vraiment ça, et entre la difficulté et le trouble, là, il y a du jugement clinique.
Quand on met un enjeu en lumière, on peut contribuer à créer une affluence de demandes puis à empirer les longues listes d'attente dans les services publics. La congestion pourrait potentiellement priver des gens plus lourdement affectés du soutien dont ils auraient besoin. On risque aussi de susciter des doutes ou des questions inutiles dans la tête des gens et de les mettre sur des fausses pistes, malgré nous. Ça, c'est sans parler du privé. Presque toutes les femmes dans le balado, incluant moi-même, ont été évaluées au privé, à un prix assez élevé. Dans le contexte actuel, c'était notre seule option à court terme, puis on avait le privilège d'en avoir les moyens. Mais c'est un problème, parce que ça peut faire en sorte que les gens moins bien nantis aient pas accès aux évaluations. C'est une espèce d'embourgeoisement de l'accès aux soins. Puis évidemment, c'est un problème pour l'ensemble du système de santé québécois. Un autre enjeu de société qui est beaucoup revenu dans mes discussions avec les femmes, c'est l'impact de notre mode de vie effréné sur les personnes neurodivergentes, puis même sur la population en général.
Est-ce que la société de performance peut exacerber justement cette souffrance-là?
Oui.
Donc, amener plus de gens à aller chercher des réponses?
Je dis oui d'office, là, puis bon, peut-être qu'on va me contredire, je sais pas, c'est correct. Il y a une notion de performance, mais d'accomplissement. De performance, pas juste une note, c'est d'accomplissement. Et être accompli, c'est être accompli dans toutes les sphères de ta vie. Et on a un accès à une comparaison maintenant instantanée. Le fait qu'on ait plus de points de comparaison, rapide, accessible, que le transfert d'informations, la communication, la transmission de l'information va beaucoup plus vite. Et la vitesse de communication de l'information n'est pas allée à la même vitesse de développement de notre cerveau. Biologiquement parlant, nous, humains, en tant qu'animal, là, on ne va pas bien plus vite. Notre augmentation de vitesse de traitement n'est pas proportionnelle ou corrélée avec l'augmentation de la vitesse de traitement de l'information dans le monde, là. Alors, on peut se sentir en décalage.
Bien sûr, une des solutions serait d'atténuer la pression sociale d'hyperperformance. Ça aurait le potentiel d'aider les personnes plus atypiques à se libérer du masking et de la culpabilité, puis à mettre leur force en lumière. Mais est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que les femmes neurodivergentes sont prêtes à assumer d'en parler ouvertement, au risque de se faire ostraciser ou de perdre des opportunités? Surtout, comme le soulève Véronique, est-ce que la société est prête à s'ajuster?
Aujourd'hui, avec le recul, avec mon diagnostic à la fin trentaine, où j'ai eu tendance à dire facilement que j'avais un TDAH, mais sans prendre le temps de me rendre compte que les gens qui sont devant moi, est-ce qu'ils connaissent le TDAH? Puis ça, c'est super important.
Est-ce que c'est sécuritaire de le dire?
Oui, parce que les gens qui ne connaissent pas ça, ils vont avoir un certain jugement.
Dans le cadre de mon travail, je ne l'ai pas dit à tout le monde. Pour plein de raisons, parce que je ne veux pas que ça me porte préjudice.
Mm-hmm.
C'est pas que j'ai honte. C'est que je ne veux pas que ça joue contre moi. Je ne veux pas que les gens partent quand ils ne me connaissent pas avec cette idée-là en partant, parce qu'il y a tellement d'idées préconçues.
C'est un risque.
C'est un risque. Fait que c'est ça que je trouve lourd.
Les appréhensions d'Isabelle sont compréhensibles. Mais c'est justement un des objectifs de ce balado. Ouvrir une discussion, commencer à normaliser et à déstigmatiser pour qu'on en arrive ultimement à plus devoir cacher qu'on est neurodivergente si on a envie d'en parler, notamment dans les milieux de travail.
J'ai plein de choses à apporter qui sont peut-être pas les mêmes que les autres, mais est-ce qu'on devrait essayer d'enlever la hiérarchie de ce qu'on considère important? Bien, c'est sûr que je serais capable peut-être un jour, moi, d'exprimer mes défis sans avoir peur, en fait. Tu sais, par exemple, j'aimerais ça plus tard être capable de dire à un employeur quelque chose comme moi, une de mes faiblesses, c'est que j'arrive en retard. Je sais pas si les gens réalisent à quel point c'est non accepté là, dans la société, vraiment. Tu sais, mettons, un employeur te demande ton pire défaut, celui-là, il est banni. T'as pas le droit de le dire. J'aimerais ça, c'est ça, pouvoir dire j'ai cette lacune-là, j'ai cette faiblesse-là. Ça se pourrait que je sois en retard des fois, mais j'ai aucun problème à être la dernière à partir. Puis c'est ce genre de petits détails-là, selon moi, si on déstigmatise tout ce qui existe autour de la neurodivergence, on sort là, des étiquettes.
Je pense que les milieux de travail, de reconnaître les forces, justement de sortir les qualités, que dire que c'est un cadeau d'avoir un TDAH, que c'est un cadeau parce que tu peux penser en dehors de la boîte. Tu sais, on dit que c'est un trouble déficitaire de l'attention. Mais moi, je dis pas que c'est un déficit. C'est juste une attention plus ciblée. Mm-hmm. Moi, donne-moi un projet, donne-moi une recherche, donne-moi un mot-clé, je pars, je peux tout te sortir. J'ai deux vitesses. J'ai comme une vitesse très rapide, puis j'ai une vitesse plus lente pour certaines choses. Fait que, tu sais, je sais que c'est difficile pour les gens de s'adapter.
Mais c'est-tu si difficile que ça de s'adapter? D'avoir la sensibilité puis l'intelligence de regarder les gens puis de se dire, bien, telle personne est vraiment bonne là-dedans, puis telle personne est vraiment bonne là-dedans, puis on va aller chercher le meilleur de chaque personne.
Après avoir beaucoup erré dans sa vie professionnelle, Milka a enfin trouvé une employeur qui, non seulement, s'intéresse ouvertement à la neurodivergence, mais qui s'adapte aussi aux forces de ses employés neuroatypiques.
À mon travail, je peux prendre mon ordinateur, je peux travailler sur la terrasse, je peux aller m'isoler dans un bureau si j'ai envie d'être toute seule, je peux être dans une salle avec beaucoup de monde, je peux être debout, je peux être assise, je peux prendre des pauses quand je veux. C'est adapté à moi, en fait.
T'as une liberté.
J'ai une liberté. Si tout le monde pouvait avoir ça, ça réglerait au moins un peu un problème de cette cadence qui est vraiment hyper accélérée, je trouve. On faisait une évaluation de rendement annuelle. Puis ma chef d'équipe m'a dit, Milka, quand toi, on t'est au travail, OK? Est-ce que tu vas être la personne qui va nécessairement être à l'heure? Non, je pense pas que tu seras la personne qui va arriver à l'heure. Est-ce que tu seras nécessairement la personne qui va avoir lu ses courriels? Non. Mais est-ce que tu seras toujours la personne qui sera là quand il y a une intervention à faire? Oui. Est-ce que tu seras toujours la première personne à être disponible et qui va se mettre vraiment à fond dedans pour aider quelqu'un? Oui. Est-ce que tu vas être une personne qui va avoir de la créativité dans des idées? Oui. J'étais comme, oh mon Dieu!
J'ai des frissons. Tu nous montres
ça existe.
Que ça existe et que ça fait une différence aussi.
Une vraie.
Ouais.
Mais vraiment, ça change tout.
J'en suis où, moi, aujourd'hui? Je pense que je suis un peu plus en paix avec moi-même, la plupart du temps. Vraiment pas toujours. Il y a encore des moments où je suis en crise, où je me tape sur la tête, où je voudrais être quelqu'un d'autre. J'en aurai probablement toute ma vie, des épisodes comme ça. C'est important de le dire, nos vies seront probablement jamais de longs fleuves tranquilles. Mais on avance, on se décourage pas. Je crois que je suis aussi un peu plus en paix avec le fait de l'avoir su à 35 ans seulement. Oui, il y aurait eu des avantages à ce que je le sache avant. J'aurais pu avoir des accommodements, apprendre à mieux communiquer mes besoins, à respecter mes limites, puis à m'aimer plus. Mais vu que j'ai grandi dans les années 90, dans une région éloignée, dans un milieu pas trop informé, il y aurait aussi eu des inconvénients à un diagnostic précoce. Mais là, on est en 2025. J'espère que les filles et les jeunes femmes d'aujourd'hui qui auraient besoin de se faire évaluer pourront le faire sans contrainte, ni financière, ni familiale, ni sociale. Puis qu'elles seront reçues par des professionnels au fait des nouvelles connaissances sur la neurodivergence au féminin. Mais une chose est sûre, le discours scientifique et l'opinion populaire sont en train d'évoluer. Et ça, ça risque d'avoir des effets bénéfiques sur le long terme. Est-ce qu'un jour, on va changer le vocabulaire ou la nomenclature reliée au TSA niveau 1, au TDEH ou au HPI? Est-ce qu'on va encore faire évoluer les critères diagnostiques ou les resserrer à nouveau? Est-ce qu'on va découvrir de nouveaux troubles ou, au contraire, en recouper certains? Tout ça est possible. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Ultimement, la précision du diagnostic, c'est pas nécessairement la source de la quête des personnes neurodivergentes. Ce qu'elles veulent, pour la plupart, c'est pouvoir être elles-mêmes. C'est avoir accès à des opportunités, réaliser leur plein potentiel et se sentir valide. C'est qu'on respecte leur sensibilité, leur particularité, puis qu'on reconnaisse que différent, ça ne veut pas dire mauvais ou anormal. Ce qu'elles veulent, c'est arrêter de sentir qu'elles doivent changer, lutter, s'essouffler et porter le masque constamment pour être aimées. Ce qu'elles veulent, finalement, c'est apparaître telles qu'elles sont, tout simplement. Et pas devoir attendre d'avoir 35, 40 ou 50 ans pour le faire.
Ça commence à l'école. Tu sais, quand on parle de blessure à l'estime de soi, c'est là. Parce que, justement, si le professeur n'a pas vu cette étincelle, ils vont t'éteindre. Moi, c'est ça. Des fois, je me suis éteinte. Fait que, tu sais, je pense que plus il va y avoir de gens diagnostiqués, plus il va y avoir de femmes, de professeurs, de personnes qui entourent ces enfants-là.
Ça peut tout changer.
Ça peut tout changer parce que ça prend ce regard-là. Tu sais, j'ai rencontré dans le cadre de mon travail quelqu'un, puis après ça, il m'a mentionné comment ma mémoire était incroyable. Puis c'était quelqu'un quand même qui avait une grande notoriété qui me dit ça. Puis de recevoir ça, c'est comme un antidote à, bon, la petite Jo connaissante, tu sais?
On est spéciales, les femmes neurodivergentes. Toutes celles qui ont accepté de me parler dans le cadre de ce balado m'ont touchée, inspirée puis émue à un niveau indicible. Je réalise aussi qu'elles m'ont offert quelque chose comme un sentiment d'appartenance. Pas se sentir seule, on le dit souvent, c'est un des éléments clés pour s'épanouir.
C'est quoi, selon toi, tes plus grandes forces?
Ma vision sur le monde, je la trouve intéressante, puis elle vient de la neurodivergence. T'sais, j'ai une vision très trois dimensions cartésienne. Aussi, j'ai la chance d'avoir un cerveau curieux.
Ma compréhension des enfants différents, mes traits autistiques, ma rigueur, ma rigidité, mon encadrement serré, c'est mes forces. C'est ce qui fait que je suis bonne comme prof.
Ma neurodivergence, c'est qu'est-ce qui fait de moi, notamment que je suis créative, que j'ai toutes sortes d'idées, j'ai une grande imagination. J'aime beaucoup, beaucoup réfléchir à toutes sortes de sujets.
Avec mes enfants, c'est le fun pour eux parce que maman, elle est un peu déjantée. Tu sais, on peut danser à n'importe quelle heure. On sort, on fait plein de trucs hyper intéressants.
Si t'as quelque chose de dernière minute, là, tu me le donnes, ce projet-là. J'aime ça du dernière minute. J'ai une vie d'action.
Ça apporte plein de choses dans ma vie, mais juste en général, la neurodivergence apporte vraiment beaucoup à la société, donc c'est merveilleux.
Pour moi, vous êtes des gens spéciaux, des gens touchants, des gens authentiques, des gens particuliers. Et vous avez plein de choses que les neurotypiques n'ont pas. Donc, moi, c'est ça que j'admire. Puis beaucoup de résilience, d'avoir passé à travers tellement d'épisodes de vie sans avoir su, compris. Puis moi, j'admire ça. Fait que c'est pour ça que je suis dans le domaine. Puis j'encourage les diagnostics et non pas les étiquettes, mais pour vraiment aller ressortir tout le beau puis cheminer à travers ça.
Ouh! J'ai rien à ajouter, je suis vraiment émue.
Apparaître, la neurodivergence invisible est une production de Radio-Canada Audio. À l'animation et à la musique originale, moi-même, Stéphanie Boulay. À la réalisation, Marie-Pierre Bouchard. Au mixage sonore, Stéphane Labaume. À la recherche, Émilie Duprat et André Giraldo.